votre intervention. Je demanderai donc au public de respecter effectivement tout le monde à cette assemblée. Merci beaucoup. Peut-être des réponses, Anthony Zilio. Bon, après, je dirai un petit quelque chose éventuellement.
Merci, Président. Bon, écoutez, de toute façon, finalement, les élections se succèdent et finalement, elles ne servent pas de leçon à personne, puisque les débats qui reviennent sont exactement les mêmes. La gestion de l'intercommunalité, et je suis très heureux en fin d'année, sans en dire plus, puisque la Cour des comptes nous a audités et nous devrons délibérer à la fin de l'année sur la Chambre régionale des comptes qui va nous acter ou pas les orientations de l'année du mandat 2014-2020, nous dira si on a bien géré ou mal géré, et donc on aura l'occasion d'en discuter à la fin de l'année, et j'ai vraiment hâte de ce moment, et j'espère que vous serez toujours autour de cette table pour entendre ce que le président de la Chambre régionale des comptes dira de la gestion de la communauté de communes, puisque ça va arriver dans quelques mois. Je veux juste vous préciser que vous n'aviez pas 3000 voix d'écart en 2014, et vous vous êtes permis, avec un dénigrement qui vous caractérise, de faire en sorte de mettre au pilori votre opposition, de vilipender tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec vous, et de faire, comme règle de base, d'être contre tous ceux qui ne sont pas avec vous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vos secrétaires qui me le disent. Alors, que j'ai gardé d'ailleurs. Donc, si vous voulez, les leçons de morale qui consistent à dire que nous sommes pires que vous, je peux l'entendre si encore il y avait du fond, c'est-à-dire si vous aviez des orientations politiques, ce que j'appréciais chez M. Martin, ce que je comprenais un peu chez M. Morand, mais ce que je n'ai jamais entendu de votre bouche vous concernant durant les 6 dernières années, mais visiblement en regardant les archives du Conseil communautaire durant les 12 dernières années. Sur la question du tourisme, je n'ai pas siégé parce qu'il y avait une présidente déléguée qui s'appelle Marie-André Altier et qui a présidé le conseil d'exploitation, comme elle l'a toujours fait. Et donc, je suis très heureux pour ça. Et par ailleurs, chers collègues, si je peux dire cher en disant ça, la question du tourisme, à mon avis, transcende toutes les sensibilités politiques et devrait tous nous réunir et ne pas nous amener devant les tribunaux qui, par deux fois, nous a permis de gagner par deux fois pour récupérer les clés d'un office de tourisme dont la dernière juridiction de l'appel vient de nous donner raison et je viens de mandater ce matin 2000 euros de frais de compensation de la ville de Bolène à la communauté de communes pour des frais que nous devions à la ville, à la communauté de communes, parce que vous avez mis au tribunal en refusant de donner les clés du point infotourisme. L'affaire est désormais close. Vous avez perdu par deux fois, comme vous avez perdu par deux fois le permis de construire de la gendarmerie, et comme vous avez perdu inlassablement depuis de nombreuses années tous les procès que vous avez tenté de faire. 3 millions d'euros de frais d'avocat en 12 ans, 130 000 euros d'honoraires pour l'avocat de la ville. Je suis en train de sortir tous les chiffres, madame, on les publiera. Il y a croix qu'il y a une profession qui prospère avec vous à la ville de Bolène, qui prospérait, pardon, c'était l'avocat qui avait des honoraires de 130 000 euros par an. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de professions qui peuvent se permettre ce genre de cachet. En ce qui concerne la question de la communication, on aura l'occasion d'en discuter puisque j'ai pu ici ou là avoir accès à certains éléments de la mairie et il me semble même que certains outils et biens de la collectivité aient pu servir ici ou là dans des instances et dans des moments qui n'étaient pas prévus par les dispositions de la loi. Je ne cite jamais les choses sans preuve et nous nous retrouverons devant les tribunaux, notamment au pénal, pour ces questions-là, puisque je signalais au procureur de la République certains agissements. En ce qui concerne les orientations de la communauté de communes, j'en suis très fier et je crois d'ailleurs que les Bolénois, en accordant confiance et ça avec beaucoup d'humilité, ont compris que ce que nous proposons, contrairement à ce que vous nous racontez depuis de nombreuses années, et que vous n'avez pas changé malgré le fait que vous soyez désormais dans l'opposition, ce qui est bien dommageable, preuve s'il en est qu'il faudrait quand même de temps en temps changer le logiciel et comprendre pourquoi vous avez été rejeté, parce que nous avons voulu prendre soin des Bolénois dans un moment de virus, dans un moment où il n'y avait plus de médecins généralistes. Et je suis très fier, avec la majorité sortante, d'avoir fait un pôle médical intercommunal qui a permis de lutter contre le virus, qui a permis notamment de faire 7 médecins généralistes quand il n'y en avait plus. Il y en a un autre qui arrive au mois de juillet, deux mois d'août, et je suis très très content qu'il puisse arriver, un dermatologue à la rentrée, sûrement d'autres spécialistes. Nous sommes en train de travailler sur de la radiologie, de la cardiologie, parce que les Bolénois nous l'ont demandé. Et quand vous, vous disiez non, nous avons dit oui. Et je suis très fier, en tant que président sortant, élu de la ville de Bolène, comme vous vous l'étiez, d'avoir mis 20 millions d'euros durant le dernier mandat pour les Bolénois et d'avoir finalement réinjecté plus à Bolène que ce que la fiscalité des volets noirs apportait à la collectivité. Je vous l'ai déjà dit, la fibre, les fonds de concours, les écoles que vous aviez abandonnées, l'ensemble des équipements culturels et sportifs que nous allons remettre à plat. Et j'entends qu'à un moment donné, puisque nous sommes au pied du mur et que nous sommes maçons, sans vouloir faire ombrage à monsieur le maire de Mondragon, qui lui, durant sa carrière, a été maçon, et c'est mieux que quiconque comment ça fonctionne, nous serons jugés, madame, sur des faits mesurables, parce qu'en politique, on ne juge des actions que sur des faits mesurables. Et donc, nous serons jugés, comme nous, tous les élus qui sont élus au suffrage seront jugés. Et je peux vous assurer que ce que nous avons fait en posant les bases, ce que nous allons faire avec désormais 5 maires main dans la main pour travailler au développement de ce territoire qui en a bien besoin, avec des endroits où il y a 40 ans de retard sur le transport, il y a 40 ans de retard sur le logement, nous devons rattraper ce temps perdu et nous allons le faire très modestement avec les finances que vous nous laissez à la ville. Nous aurons l'occasion d'en discuter. Je me suis longuement entretenu avec le directeur des services finances avant qu'il parte. Il m'a dit tout le fond de sa pensée concernant la gestion que vous avez pu avoir. Et nous allons faire en sorte de rendre public ce sur quoi nous allons le faire, parce qu'il n'y a absolument aucune gloriole à avoir sur la question de la gestion des finances quand on laisse une ville avec 17,7 millions d'euros de dettes, alors que la strate devrait être à 14 millions et que cette collectivité n'a pas un seul centime de dette, preuve s'il en est de la gestion exemplaire que nous avons fait. Donc si vous voulez, on peut tout dire, mais à un moment donné, il faut qu'on puisse vous répondre, et je suis très heureux désormais de pouvoir le faire à cette fonction, à la fonction de maire de Bolène, pour faire en sorte de faire en sorte que ces vérités que vous essayez d'asséner, mais qui n'en sont pas, puissent être répondues. Nous avons dépensé 20 millions d'euros sur le dernier mandat, et nous avons fait en sorte de développer des compétences qui nous étaient propres dans le domaine d'intervention, et nous en sommes très fiers.
Merci beaucoup. Vous n'aurez plus la parole, madame, vous l'avez déjà eue. Juste, je voudrais compléter que je suis effectivement très content que le maire de Bolène soit enfin président de cette communauté de communes, parce qu'effectivement, nous avions un blocage en termes de décision, de transfert de compétences, etc., etc. Donc, président, vous avez parlé de la fibre, des écoles, je parlerai du développement économique. Vous avez parlé des fonds de concours, des projets intercommunaux, effectivement, et donc du médical. Donc toutes ces actions, je remercie Madame Bompard de nous rappeler effectivement que nous ne gérons pas notre argent, mais l'argent des entreprises et du contribuable, comme si effectivement nous étions là pour faire autre chose. Donc je vais soumettre aux voix donc cette question. Qui s'abstient ? Ah, oui, sort. Pas trop loin. Merci. Donc maintenant que M. Zilliou est sorti, donc qui s'abstient sur cette question ? Qui est contre la Ligue du Sud ? Donc question adoptée à la majorité. Je vous remercie. Question numéro 33. Nous sommes sur le budget annexe du service public de l'assainissement non collectif. Ah, le 32. Merci derrière en régie de me le rappeler. Donc nous sommes sur le budget annexe de question 32 de l'Office de tourisme intercommunal et le compte administratif 2019. S'il vous plaît, M. Perron.
Le compte administratif du budget annexe de l'Office de tourisme fait ressortir un excédent global de clôture de 48 746,67 euros. L'année 2019 en fonctionnement pour ce budget annexe retrace l'ensemble des actions de promotion touristique menées, la foire de la Palue, les apéritifs d'accueil touristique, les animations musicales en centre-ville, ainsi que les adhésions aux organismes de promotion touristique. La section d'investissement retrace la construction du point d'information touristique de Mornas, mis en service en juin 2019. Après ce récapitulatif du document qui vous a été envoyé, il est proposé au Conseil communautaire de donner acte à M. le Président de la présentation des documents budgétaires, de donner quitus à M. le Président pour sa gestion pour l'exercice 2019, d'approuver et d'arrêter les comptes présentés en annexe.
Merci. Y a-t-il des questions ? Allez-y, Mme Caléron.
Nous pouvons constater pour cette année encore une augmentation des dépenses de fonctionnement de 31%. Du budget là. Hein. Les charges de personnel augmentent de 31% également alors que le nombre est inchangé. Les dépenses à caractère général augmentent de 23%. Nous constatons des dépenses faramineuses en fêtes et cérémonies de 17 000 euros. Encore des dépenses de catalogue et imprimés pour 15 000 euros, alors qu'à Bolène, nous n'avons pas de plan de ville. Vous êtes même obligés de photocopier les nôtres. Et pour finir, 46 000 euros de cotisations. Vous avez dépassé de 23 000 euros le budget prévu au BP 2019. Tout cela pourquoi ? Pour afficher une baisse de fréquentation du PUIT de 50%. Ce PIT dont vous êtes acharné à récupérer, alors que nous, on savait que deux lieux d'accueil, ça commençait à faire un petit peu trop. On voyait là la baisse de fréquentation arriver. Et c'était pour ça qu'on avait décidé de le céder à un commerçant. Mais bon, vous ne voyez pas le développement économique comme cela. Vous avez justifié cette baisse du point infotourisme à cause d'un manque de signalétique. C'était à cause des gilets jaunes. Hein. Les gilets jaunes avaient tout cassé, avaient fait de gros dégâts. Voilà. Au lieu d'assumer, vous laissez la responsabilité aux gilets jaunes. Mais le comble est l'investissement d'un véhicule itinérant qui aurait pu être une bonne idée. Si vous n'aviez pas investi 600 000 euros pour un nouvel office de tourisme, et dont le montant s'élève aujourd'hui à 2 millions parce que la maison du terroir n'existe toujours pas, alors que nous avons sur le territoire 3 lieux d'accueil, et que même Mme Fermignan avait dit de Vaucluse Provence Attractivité, disait que 2 lieux d'accueil faisaient déjà trop sur Bolène. Et même d'ailleurs, vous, ou votre directrice plutôt, l'a avoué en conseil d'exploitation, puisqu'elle disait que les touristes ne poussaient plus la porte des hôtels. Voilà pour les chiffres. Malheureusement, je ne pourrais pas vous en donner d'autres, parce que plus ça allait dans le temps, moins on avait de chiffres, moins de transparence. Alors pourquoi cette transparence, si ce n'est pour faire du vent et pour masquer votre incompétence ?
Monsieur Zillion.
Je pense que sur la transparence, je pense que votre équipe sortante à la mairie de Bolène n'a pas trop de leçons à nous faire sur la transparence. On parlera de la CEMIB très bientôt. S'il y a bien une opacité qu'il y a eu durant ce mandat, c'est sur la question de la CEMIB. Mais vous inquiétez pas, on rendra tout ça public. Je vais vous répondre point par point. Les 31% d'augmentation, c'est parce que malheureusement, peut-être pour vous, mais heureusement pour elle, une de nos agents a eu un heureux événement. Il y a eu donc un congé maternité et il convenait qu'on puisse la remplacer. Et c'est donc cette augmentation-là qui vient de faire. Alors, sur le service com et sur le plan de la ville, je vais vous répondre, c'est assez... Maintenant qu'on est de l'autre côté et puis qu'on est à la ville, on a retrouvé à l'étage de l'office de tourisme en centre-ville 3 cartons de plan de ville la semaine dernière, qui ne nous avaient pas été transférés durant la prise de la compétence tourisme. Alors peut-être ils avaient été oubliés, hein, je ne fais pas de procès d'intention. Et donc nous avons retrouvé ces plans de ville qu'on aurait pu recevoir en fait au transfert de la compétence, mais qui n'ont jamais été donnés à l'intercommunalité pour le cadre et l'exercice légal de la compétence tourisme. Donc s'il y a encore une preuve du ralentissement et des freins que vous avez pu avoir sur l'exercice de la compétence tourisme, il y a bien cela. Sur le PIT, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est le juge qui vous a condamné 2 fois, donc j'y reviendrai pas. Sur la question de la signalétique, non plus. Simplement vous faire remarquer que, en effet, la baisse d'activité de novembre 2018 à janvier 2019, exactement du 14 novembre 2018 au 7 janvier 2019, c'est l'occupation du rond-point de l'autoroute par le collectif des Gilets jaunes qui n'a pas empêché justement l'exercice de cette compétence et l'ouverture du local qui était pris par ces occupants-là et qui fait aussi une fois de plus la démonstration de la baisse d'activité. En ce qui concerne le budget de l'Office de tourisme, quand on ne fait pas assez, il y a 2 ans, on avait un budget mais on n'avait pas beaucoup réalisé, on n'était vraiment pas bon parce qu'on ne faisait pas le site internet, on ne faisait rien, on était vraiment des nuls. Et désormais, on augmente les budgets, on n'est pas bon parce qu'en fait, il faudrait dépenser moins. Alors, j'ai un peu de mal à vous suivre, mais je pense que je ne suis pas le seul, pour faire en sorte de comprendre que lorsque nous avons pris la compétence du tourisme, il y avait un budget de 127 000 euros. Et sur ces 127 000 euros, il y avait un agent qui coûtait 66 000 euros par an. Alors, avec la différence, vous essayez de porter une politique ambitieuse du tourisme, en sachant que vous aviez gardé la taxe de séjour et que vous ne l'aviez pas mutualisée à la communauté de communes, ce qui fait qu'il y avait un budget de 44 000 euros de taxe de séjour, puisque maintenant on a accès à toutes les informations, et comme on va très vite, en plus, on a tous les chiffres qui vont bien très rapidement, en plus on est en train de faire un audit financier qui est en train de regarder tous les services, donc on aura l'ensemble des éléments, et même au CCAS, Madame Calero, on parlera du CCAS aussi si vous le souhaitez. Donc, sur ces sujets-là, on n'a aucune leçon à recevoir de vous, et nous sommes très heureux de la politique touristique, et je salue, ça me donne l'occasion, sur l'année 2019, de saluer notre collègue qui a souvent été pris à partie, Marie-André Altier, qui a fait un travail remarquable avec l'ensemble des équipes pour faire en sorte de faire de notre territoire une destination au travers de la marque Provence-Côte-et-Rhône.
Voilà, je vais mettre la question au vote. Donc, merci de sortir. Donc, qui s'abstient donc sur ce rapport numéro 32, je vais y arriver, décidément. C'était à cause de l'histoire des docteurs, je pense, tout à l'heure. Donc, qui s'abstient, qui est contre, la Ligue du Sud, question adoptée à la majorité. Je vous remercie. Voilà, la fameuse question 33, il va falloir que je retape le mot de passe. Mais, donc, le rapport numéro 33, budget annexe donc, du service public de l'assainissement non collectif, appelé SPANC, compte administratif 2019. Monsieur Perron, s'il vous plaît.
Alors, le compte administratif du budget SPANC fait ressortir un excédent global de clôture de 69 448,65 €. Le détail de l'activité de ce service ayant été présenté dans la question précédente sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif, je ne vais pas détailler plus avant. Il est donc proposé au Conseil communautaire de donner acte à M. le Président de la présentation des documents budgétaires, de donner quitus à M. le Président pour sa gestion pour l'exercice 2019, d'approuver et d'arrêter les comptes présentés en annexe.
Donc, je vous remercie. Y a-t-il des questions sur ce sujet ? Pas de questions. Donc, je vais appeler au vote. Merci de sortir, M. Zillio. Donc, qui s'abstient ? Qui est contre ? La Ligue du Sud. Question adoptée à la majorité. Je vous remercie. Question numéro 34. Nous sommes sur le budget annexe de la zone d'activité économique Notre-Dame, ZAND, le compte administratif 2019. Monsieur Perron, s'il vous plaît.
Donc, le compte administratif du budget annexe de la zone d'activité de Notre-Dame à Mondragon fait ressortir un excédent global de clôture de 52 250,20 €. L'exercice 2019 retrace des travaux d'aménagement complémentaires effectués ainsi que la vente des lots 5 et 6 de cette zone. Les autres écritures correspondent à des écritures de stock. Après ce récapitulatif du document qui vous a été envoyé, il est proposé au Conseil communautaire donc, de donner acte à M. le Président de la présentation des documents budgétaires, de donner quitus à M. le Président pour sa gestion pour l'exercice 2019 et bien sûr d'approuver et d'arrêter les comptes présentés en annexe.
Je vous remercie. Y a-t-il des questions ? Une question de Mme Bompard, s'il vous plaît.
Oui. Alors, sur cette zone de Mondragon, bien sûr, on est encore satisfait à travers votre délibération. Par contre, lorsqu'on prend le compte de gestion que vous avez tous eu en main et que vous avez sûrement consulté, vous voyez que le compte de gestion étant le compte du trésorier payeur, hein, il y a un déficit d'1 311 873,49 € sur cette zone de Mondragon. 1 311 000. C'est-à-dire que pour des gens qui veulent faire du développement économique et qui n'ont que ça à la bouche, mais c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, mais qu'on ne m'a pas laissé dire, il faudrait avoir fait des commissions qui respectent les jours, les heures. Or, c'était tout le temps que c'était songé. Donc, quand on veut parler de commission et de respect des rendez-vous, on commence par soi. Mais ça n'est qu'un... Alors, cette zone, eh bien oui, elle est déficitaire. Et qui c'est qui va payer? Ce n'est pas M. Zilio, c'est le contribuable et les entreprises elles-mêmes. Elles vont payer deux fois. Alors, il faut savoir que quand je suis arrivée, le président, c'était à M. Lambertin, que vous avez beaucoup accusé, d'ailleurs, monsieur, dans votre mandat. Je suis heureuse de le retrouver à nouveau dans votre majorité. Sur la mauvaise gestion qu'il avait fait de cette Zande pendant les six premières années donc, où il siégeait. Pendant les six années où il a siégé, comme je vous disais tout à l'heure, toujours à accuser les autres. Et vous nous aviez promis qu'avec vous, eh bien, ça irait beaucoup mieux. Or, au bout de 12 ans, elle est toujours et elle sera toujours déficitaire jusqu'à ce que le budget principal fasse abonde, bien évidemment. Alors, au départ, ces terrains étaient à 45 euros le mètre carré, viabilisé. Et puis, dans une séance où j'allais, monsieur, du temps où, même si je, en tant que vice-présidente de le développement économique, je n'avais le droit à rien. Hein, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai cessé.
Vous aviez droit à une indemnité, ça a été rappelé.
Oui, il aurait fallu. Mais
quand vous dites que vous avez droit à rien, vous aviez droit à une indemnité.
Monsieur, vous voulez qu'on parle de la ZAC?
Excusez-moi de vous avoir coupé.
Non, mais bien sûr, mais vous avez le droit, vous avez tous les droits, vous, bien évidemment. Surtout celui à être impoli.
À la fin de la question 31 à 37, oui, j'ai tous les droits.
Surtout celui à ne pas respecter celui de l'opposition. Alors, on reparlera, monsieur, de la ZAC. Vous avez assiégé mon bureau pendant des mois sans avoir compris comment elle fonctionnait.
Oui, mais j'ai assiégé votre bureau parce que vous n'avez pas toujours pas compris ce que je vous demandais depuis 6 ans. Continuez.
Alors, la Zande, 45 euros départ. Finalement, on se met à d'accord à 35 euros. Et elle n'a jamais pu être vendue, même à 35 euros. Alors, on nous a fait dépasser des dizaines de délibérations dans lesquelles on disait, ah, le terrain, ça y est, il est vendu à un tel. Alors, on attendait, puis 8 mois après, on dit, ah ben non, autre délibération, il n'est pas vendu. Et ça a duré 12 ans. 12 ans pendant lesquels on nous a fait croire que ça allait se développer, que ça allait apporter de l'emploi, etc. Bilan. En moyenne, les terrains ont été vendus 19 euros. 19 euros. Alors, on peut m'accuser de mentir. Les chiffres, vous les avez dans les comptes de gestion, dans les comptes de gestion du trésorier payeur. Je vous invite à aller les voir. Et donc, on a vendu en moyenne 19 euros. Quelquefois, on a même voulu faire des cadeaux somptueux à des entreprises qui, finalement, dont le patron est parti en prison il y a quelques années en arrière. Alors, c'est un déficit de 1,4 million. Et pour essayer de combler ce déficit, l'Interco, il y a un an ou deux, sous la présidence de M. Zilio, a racheté ses propres terrains, 200 000 euros. Ce qui est une aberration totale, des terrains qui sont déjà payés par l'Interco et surtout par les Molénois, les Lapalussiens, les Mornassiens, etc. Voilà comment cette Zande finit déficitaire. Et quand on se dit bon gestionnaire, je suis allée, je me renseigne, vous m'avez accusé une fois sur les actes d'activité de l'Interco voisine, parce que vous aimez bien critiquer les autres, en particulier l'Interco de Jacques Bompard. Eh bien, non seulement ils n'en ont pas fait qu'une, ils en ont fait deux, et elles sont en équilibre. Alors, s'il vous plaît. Alors, voilà le type de gestion concrète. Je vous demande d'aller voir les chiffres, puisque quand M. Zilio dit « Ah, mais moi, vous allez voir, la Chambre régionale des comptes, elle me donne un satisfait titre. » Moi, la Chambre régionale des comptes, elle est passée deux fois en 12 ans. Premier mandat, deuxième mandat. Les deux fois, j'ai eu ce satisfait titre. Alors, pourquoi donner crédit à la Chambre régionale des comptes quand ça vous arrange et la démolir quand ça vous dérange, n'est-ce pas? Alors, non, il n'y a pas 17 millions d'euros de déficit à la ville de Bolène. Mais ça me rassure que vous disiez ça.
C'est vrai.
Ça me rassure parce que ça prouve que vous, même en étant réélu président de cette collectivité, vous n'avez toujours rien compris aux finances. Et si vous me permettez, si vous me laissez, bien je viendrai aux commissions des finances de l'intercommunalité parce qu'elle m'intéresse. Elle m'intéresse au plus haut point. Oui, mais vous ne m'avez pas laissé parler, d'accord? Et j'aurais voulu m'exprimer sur tout ce que je viens de dire tranquillement, mais vous avez coupé les paroles. Alors, voilà, un exemple de gestion catastrophique. Et encore une fois, vous aviez pris plaisir à dégommer, si je puis dire, parce que vous ne vous gênez pas de dégommer, c'est le mot. Vos prédécesseurs ou ceux qui vous ne vont pas dans votre sens, eh bien, 6 ans, vous n'avez pas fait mieux. Et cette zone reste déficitaire.
Je n'ai pas compris, madame Bompard, et que vous ne comprendrez jamais, c'est que toutes ces entreprises qui sont installées sur la zone, avec les taxes qu'ils payent depuis quelques années, ont largement couvert le déficit. C'est dommage que vous ne compreniez pas ça.
Oui.
Vous n'avez jamais rien compris et vous ne comprendrez jamais rien. Voilà. Je vous le dis, il y a longtemps que
je... Je suis allée avec monsieur Mont...
Depuis mes 2 mandats, je vous dis que vous ne comprenez rien et vous ne comprendrez jamais rien. Voilà.
Avec monsieur Morand, pour demander combien ils avaient d'employés. Bien loin du chiffre que vous avez.
Il coupe.
Oui,
bon. Bon. Je crois que, s'il vous plaît.
La zone de Pirlat est bombardée beaucoup plus que nous, et ils sont plus intelligents que vous, et figurez-vous qu'aujourd'hui, ils ramassent les fruits de tout ça.
Voilà, s'il vous plaît, les joutes verbales. Madame Ricard a demandé la parole.
Oui, écoutez, mes chers collègues, si on doit repartir 6 ans comme ça, moi, je ne vais pas passer du temps ici.
Non, mais c'est le début.
Voilà, c'est inacceptable de passer du temps à ressasser le passé. S'il y a bien une chose sur laquelle on ne peut pas revenir, c'est le passé. On sort de 6 ans de mandature. Les électeurs ont parlé et nous sommes sur le seuil des 6 ans à venir. S'il vous plaît, le territoire a besoin d'énergie, de compétences, de coopération pour faire avancer les choses. Mais cette joute politique, il y en a ras-le-bol. Ras-le-bol, si madame, c'est de la joute politique, purement politique. Alors, non madame, je crois que autour de cette table, nous avons les outils démocratiques nécessaires à un bon travail. Vous avez accès aux commissions de travail, vous allez pouvoir vous exprimer. Vous allez pouvoir faire des propositions, comme l'ensemble des élus autour de cette table. Je demande solennellement que ce soir, on prenne tous la décision de sortir de ce carcan que nous avons passé pendant 6 ans et que je souhaite à aucun prix, revoir se mettre en route. C'est une insulte au territoire et c'est une insulte à l'expression démocratique que nous venons de vivre. Donc, mettons-nous au travail, sérieusement, et arrêtons. Arrêtons de vouloir refaire le passé. Construisons ensemble, dans le respect et l'écoute, l'avenir.
Oui, oui. Allez-y, parce que merci Cathy Ricard de cette intervention qui est effectivement tellement vraie.
Je souhaiterais, président, prendre la parole, si c'est possible.
Oui,
ça fait oui. 2 fois que je soulève.
Oui, alors excusez-moi, monsieur Mossi, j'avais pas vu que vous aviez levé le doigt. Donc effectivement, je trouve que Cathy, ton intervention est bien à propos. Moi, je crois, alors, c'est vrai que je laisse parler un peu plus que tout le monde, parce que je crois aussi à l'expression, mais c'est vrai que la difficulté qu'on a sur cette zone de Notre-Dame, c'est ce que disait Christian Perron, madame Bompard, c'est qu'on l'a expliqué, on l'a expliqué, on l'a expliqué, alors le déficit, il est là, il faut pas s'en cacher. Par contre, quand vous dites qu'il n'y a aucune entrée fiscale, c'est faux, puisque les taxes professionnelles des entreprises sont là. Les taxes d'aménagement sont là, les taxes sont là, et vous le savez très bien, parce que quand vous installiez des entreprises sur la commune de Bolène, vous avez des taxes qui tombent dans les comptes de la commune, donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de rentrée d'argent, vous pouvez discuter des emplois tant que vous voulez, mais ça c'est des bagarres de chiffres. Par contre, quand vous parlez que la communauté de communes a racheté ses propres terrains, je me souviens aussi que la CEMIB, la ville a acheté à la CEMIB qui voulait vendre à l'Interco, ça fait des débats, sur la part au parc avec des multiplications de prix au mètre carré qui étaient de la folie. Donc, écoutez, ces débats-là, Cathy a raison, on les a déjà eus. Et ça a duré 6 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, il est lieu d'eux? Vous parliez d'être au pied du mur. Eh bien, on jugera, effectivement. Vous jugerez. Les contribuables jugeront dans 6 ans le bilan de tout ce qu'on a dans les mains pour réussir aujourd'hui. Voilà. Monsieur Mossi, vous aviez demandé la parole.
Merci, Président. Moi, la question est simple. Elle se rapporte à la question. On avait prévu, vous aviez prévu 1,4 million de produits exceptionnels qu'on n'a pas, ce qui explique le déficit. Point final, si on revient à la question. Quel était ce produit et est-ce qu'il y a la même explication que tout à l'heure par rapport à la croisière? Et après, il n'y a pas débat à avoir. Il y a explication, c'est tout.
Oui. Je vais répondre. Je partage totalement la position de Cathy, mais quand on porte des assertions de mensonges depuis de tant nombreuses années, alors qu'on n'a pas balayé devant sa porte et qu'on a fait le contraire, je peux en parler de manière très calme, mais je pense qu'il faut qu'on le dise. Sur la question de la Zande, il reste un lot, le lot numéro 7. Pourquoi il n'est pas vendu? C'est la société France Gazon. Le permis est déposé, mais il y a eu le Covid. Et comme ils n'ont pas eu et pu justifier d'une année d'exercice, ils n'ont pas pu avoir le prêt qu'ils voulaient. Ce n'est pas plus compliqué que ça, mais on peut faire le procès et réduire tout à des symboles. On n'y arrive pas. Pourquoi le lot 19, on l'a sorti? Parce qu'il est dans un retournement à côté de chez Nieto, pour ceux qui connaissent la zone, et que personne n'en voulait. Et que par conséquent, on a fait des ateliers qui sont loués, dont on a rencontré les mêmes difficultés que ceux que vous avez rencontrés dans les locaux de la CEMI, puisque je crois savoir, maintenant ayant accès au contentieux, que la ville de Bollène est en contentieux par rapport au même locataire que celui qui était à l'atelier 19. Donc, je ne dis pas qu'on gère mieux ou moins bien, je dis simplement qu'on a des modèles économiques. Ce que je disais par rapport à la gestion précédente, je le redis aujourd'hui. Nous avons fait un modèle économique de Zande, nous avons ouvert la Zande le 14 avril 2007. Nous sommes en 2020, 13 ans plus tard, nous n'avons toujours pas commercialisé. Donc, et ce que je disais, c'est que dans le mandat dernier, nous avons commercialisé plus de la moitié des lots, mais tout le monde peut le vérifier, je n'ai absolument rien dit. Et le modèle économique, madame, il était à 1 euro pour l'entreprise, 1 euro pour la collectivité. Ce que nous ne souhaitons plus, et si vous assistiez aux commissions développement économique, désormais, nous avons une intervention de la collectivité entre 25 et 35% dans le montage des parcelles et du budget de la Zande, contrairement aux 50% qui étaient faits auparavant. Ce n'est pas plus compliqué que ça. En ce qui concerne Raphaël Michel, puisque vous avez quand même dit que nous avions, et c'est grave, dit que nous avions mis des gens qui avaient fini en prison, excusez-moi de vous dire que quand je suis arrivé, il n'y avait pas de commission d'option sur la parcelle, c'était 5 et 6 que nous avons levé. Et je suis très heureux, contrairement à ce que vous pouvez dire, qu'on ait retenu 110 ingénieurs de Rolls-Royce qui allaient partir à Valence et qui se sont installés sur ces parcelles-là et qui, contrairement à ce que vous dites, c'est pas parce que vous avez fait le tour avec M. Morand de la zone d'activité que vous avez pu voir le nombre d'emplois, parce que le nombre d'emplois ne se résume pas au nombre de personnes que vous voyez dans les bureaux. Le nombre d'emplois se résume par rapport aux sièges et aux sociétés. La société qui avait un siège à Orsan et à Sorgue, qu'à Fervaner, a réuni l'ensemble de son siège sur la Zande, Mondragon, qui a aujourd'hui 200 emplois qui sont venus là plutôt que d'aller à Orsan ou à Sorgue. Et vous ne les verrez pas les 200 dans les bureaux, puisque c'est des métiers techniques, ils partent avec un camion tous les matins et ils vont. Donc vous pouvez même passer à n'importe quelle heure, vous ne les verrez jamais. Et la plupart du temps, ils sont en déplacement dans toute la France. Mais aujourd'hui, le siège social, c'est celui-là. Par ailleurs, les retombées dans l'économie locale sont évaluées à 2 700 000 euros, c'est très précis, d'entreprises locales qui ont porté des investissements sur cette zone d'activité Notre-Dame. Nous récoltons près de 200 000 euros de fiscalité des entreprises chaque année, ce qui fait que nous aurons un amortissement sur les 10 ou 12 prochaines années, comme ça fait depuis 2007 qu'on la commercialise, vous aurez tous compris. Et puis, on ne peut pas, Madame Ricard, je sais ce que vous dites, mais on ne peut pas avoir commercialisé 4 fois la ZAC de Bollène en promettant 1000 emplois alors qu'il n'y en a pas eu un seul qui a été créé, vendu de la CEMAVA à la CEMIB, de la CEMIB à la ville de Bollène et de la ville de Bollène à l'intercommunalité, 4 fois le prix. Là, la défense des Bollénois ne vous intéresse pas. Alors, je veux bien entendre qu'on me reproche des choses. Oui, le 1,4 million, M. Mossi, c'est le prix, comme nous avons fait sur la zone de la croisière, lorsqu'on a figé les 1,5 million et la commercialisation qui a dévalué, mais on peut comprendre que de 2007 à 2020, ça a été dévalué, d'autant plus que je vous rappelle qu'en 2007, on était sur de l'acquisition, tous les chefs d'entreprise voulaient acheter des parcelles, Il y a eu une baisse, il y a eu une crise quand même, 2008 et 2009, il y a eu une crise mondiale dans toutes les banques du monde qui ne prêtaient plus. Et peut-être que vous étiez hors sol, mais enfin, ceux qui avaient des investissements l'ont vu, surtout la crise des subprimes et notamment la crise en 2008 et en 2009. Ce qui fait qu'à un moment donné, eh bien, ils se sont plus portés sur du locatif que sur de l'acquisition. Et cette zone a été abandonnée parce que les gens ne voulaient pas se porter acquéreur. C'est pas plus compliqué que ça. Pour la Chambre régionale des comptes, vous aviez 22 réserves, Madame le maire. On verra combien on en aura.
Voilà, donc je vais mettre la question au vote. Donc qui s'abstient ? Non, c'est, ça y est. Oui, merci de sortir. Tout le monde a dit ce qu'il avait à dire. Ça fait 6 ans que ça dure, ça ne va pas durer encore 6 ans. Voilà, merci. Donc qui s'abstient sur cette question ? Qui est contre ? La Ligue du Sud, question adoptée à la majorité. Je vous remercie. Donc nous allons passer à la question numéro 35. Qui est le budget annexe de la zone d'activité de la croisière sud et du compte administratif 2019. Monsieur Perron, s'il vous plaît.
Donc le compte administratif du budget annexe de la zone d'activité de la croisière sud cite anciennement un but à gaz, fait ressortir un déficit global de clôture de 1 555 512,14 €. L'exercice 2019 retrace les travaux et études préalables au démantèlement et à la démolition de ce site, notamment les travaux préparatoires au désamiantage et les autres écritures correspondent à des écritures de stock. Après ce récapitulatif du document qui vous a été envoyé, il est proposé au Conseil communautaire de donner acte à M. le Président de la présentation des documents budgétaires, de donner quitus à M. le Président pour sa gestion, pour l'exercice 2019, et d'approuver et d'arrêter les comptes présentés en annexe.
Merci, Monsieur Perron. Donc, y a-t-il des questions ? Alors, les questions vont se résumer uniquement à des questions sur le rapport. Hein. On ne va pas commencer et recommencer à polémiquer sur tout. Alors, y a-t-il des questions ? Pas de questions. Donc, je soumets au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? La Ligue du Sud, question adoptée à la majorité. Je vous remercie. Question numéro 36. Nous sommes sur le budget annexe du pôle médical, compte administratif 2019. Monsieur Perron.
Donc, le compte administratif du pôle médical fait ressortir un excédent de clôture de 55 733,74 €. Le pôle médical a accueilli en 2019 plusieurs praticiens, 2 infirmières, 1 orthophoniste, ainsi que les promesses à bail de 2 médecins généralistes qui sont installés depuis Dr Vidroquin et le Dr Pascou. Okay. Le compte administratif retrace principalement en fonctionnement le paiement du loyer aux propriétaires du pôle médical, ainsi que l'encaissement des loyers des praticiens installés et la subvention versée par le budget principal. Après ce récapitulatif du document donc, qui vous a été envoyé, il est proposé, bien entendu, au Conseil communautaire, de donner acte à M. le Président de la présentation des documents budgétaires, de donner quitus à M. le Président pour sa gestion pour l'exercice 2019, et bien sûr d'approuver et d'arrêter les comptes présentés en annexe.
Merci. Y a-t-il des questions ? Non, je vais soumettre au vote. Donc, qui s'abstient ? Qui abstention ? Une abstention, M. Raoux. Qui est contre ? On a de la Ligue du Sud. Donc la question est adoptée à la majorité. Je vous remercie. Voilà. Monsieur le Président, je vous rends votre présidence.
Merci. Merci, Monsieur le Premier vice-président. La question suivante, c'est l'affectation du résultat sur le budget principal. Rapport numéro 37, Monsieur Perron.
Donc nous arrivons donc à la troisième étape, à l'affectation des résultats pour les budgets concernés. Alors, la question 37 concerne le budget principal. Le résultat de fonctionnement affecté est de 9 519 971,99 €, et le besoin de financement de la section d'investissement est de 5 839 697,07 €. En conséquence, le résultat va être affecté au compte 1068 pour 5 839 697,07 €, et le reliquat reporté au chapitre 002 pour 1 680 274,92 €.
Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Abstention de la Ligue du Sud. Dossier adopté à l'unanimité. Rapport numéro 38, il s'agit de l'affectation du résultat du budget annexe de l'Office de tourisme intercommunal, M. Perron.
Alors, pour le budget annexe Office de tourisme, donc le résultat de fonctionnement à affecter était de 91 370,56 €. Et le besoin en financement de la section d'investissement est de 45 629,07 €. En conséquence, le résultat va être affecté au compte 1068 pour 45 629,07 €. Et le reliquat reporté au chapitre 002 pour 45 741,49 €.
Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud, non ? Qui s'abstient ? Contre ? Ben, allez-y.
Une rectification de vote sur le précédent, parce que c'est contre aussi. Alors que nous avons répondu à l'abstention, mais c'est contre. Non, le premier
donc, contre, rapport numéro
la
30.
Première affectation du résultat.
D'accord. Sur le budget principal, un vote contre du groupe Ligue du Sud. Question numéro 38, un vote contre, toujours. Dossier adopté à la majorité. Je vous remercie. Question numéro 39, il s'agit de l'affectation du résultat, cette fois du budget annexe du pôle médical. Monsieur Perron.
Alors, pour le budget annexe pôle médical, le résultat de fonctionnement à affecter est de 58 853,79 €. Et le besoin d'un financement, donc de la section d'investissement, est de 8 415,05 €. En conséquence, le résultat va être affecté au compte 1068 pour 8 415,05 €. Et le reliquat reporté au chapitre 002 pour 50 438,74 €.
Merci. Ah, est-il... Vas-y, Christian. Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté. La Ligue du Sud est contre. Dossier adopté à la majorité. Je vous remercie. Question suivante. Il s'agit du budget principal et d'un budget supplémentaire. Monsieur Perron.
Donc, enfin, le budget supplémentaire en reprenant le résultat constaté à leur compte administratif respectif. Donc, la question 40 donc, concerne le budget principal, en plus de la retranscription des résultats affectés précédemment. Nous avons affecté plusieurs ajustements, principalement pour prendre en compte la crise sanitaire liée à la Covid-19. Donc, le budget supplémentaire comprend notamment donc, les crédits pour l'achat de masques portés par la communauté de communes et les recettes correspondantes en subventions et participation des communes membres, l'augmentation des frais postaux et d'entretien liés au fonctionnement des services durant cette crise, le versement des sommes liées au fonds Covid-résistance, Covid-solidarité et Covid-urgence pour aider les entreprises du territoire. À ce jour, plus de 30 PME, TTPE et professions libérales ont bénéficié d'aides directes de la communauté de communes. Alors, suite à une demande du Trésor public en date d'hier, le lundi 20 juillet, donc le projet du budget supplémentaire doit être modifié légèrement. En effet, la somme prévue pour le Covid-résistance de 50 000 € au chapitre 204 doit être prévue au chapitre 27. Les documents qui vous ont été donc communiqués seront donc modifiés en conséquence. Par ailleurs, il comprend également quelques ajustements relatifs aux opérations comptables, amortissement, régularisation patrimoniale, équilibre du budget annexe et reprise sur provision régie. L'aménagement du centre-ville de la Motte-du-Rhône, acquisition de véhicules électriques qui seront subventionnés, finalisation du partenariat avec le conseil départemental de Vaucluse pour le rond-point Axier-Via-Ronin. Il est donc proposé donc, au conseil communautaire de délibérer pour approuver l'objet supplémentaire à présenter. Monsieur le Président.
Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Abstention de la Ligue du Sud ? Qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 41. Il s'agit du budget supplémentaire du budget annexe de l'Office de tourisme. Monsieur Perron.
Alors donc, l'Office de tourisme, pour son budget annexe, être très peu modifié avec la prise en compte de l'affectation des résultats et la révision de la prévision sur les recettes de fonctionnement. Il est donc proposé au Conseil communautaire de délibérer pour approuver le budget supplémentaire à présenter. Monsieur le Président.
Oui, y a-t-il des questions ? S'abstient. La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Budget annexe du service public d'assainissement non collectif. Il s'agit d'un budget supplémentaire. Monsieur Perron.
Alors, le budget supplémentaire du SPENC reprend également les résultats et ajoute les crédits pour ce budget annexe. On rembourse au budget principal le temps de travail du personnel dédié au suivi de l'ANAC, des ANAC, pardon. Il est donc proposé au Conseil communautaire de délibérer pour approuver le budget supplémentaire présenté.
Merci. Monsieur le Président. Est-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? La Ligue du Sud a aussi adopté à la majorité. Question numéro 43. Il s'agit du budget annexe de la zone d'activité économique Notre-Dame. Ce budget supplémentaire, Monsieur Perron.
Alors, la question numéro 43 porte enfin, pour le budget annexe de la zone d'activité de Notre-Dame de Mondragon. Les crédits supplémentaires inscrits retracent l'affectation des résultats et leur contrepartie dans les crédits prévus au budget 2020. Il est donc proposé au Conseil communautaire de délibérer effectivement pour approuver le budget supplémentaire présenté joint à l'ordre du jour.
Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? La Ligue du Sud, dossier adopté à la majorité. Je vous remercie. Question 44, il s'agit du budget annexe de la zone d'activité La Croisière Sud. C'est un budget supplémentaire. Monsieur Perron.
Alors, ça concerne le budget de la zone d'activité La Croisière. Donc, le budget supplémentaire comprend la reprise du résultat et son équilibre par ouverture de crédits d'emprunt. Il est donc proposé au Conseil communautaire de délibérer pour approuver le budget supplémentaire présenté et joint à l'ordre du jour de votre convocation.
Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 45. Il s'agit du budget annexe du pôle médical, un budget supplémentaire. Monsieur Perron.
Alors, le dernier budget supplémentaire, donc, c'est le pôle médical. Le budget supplémentaire reprend le résultat et en affecte une partie au financement de l'acquisition des mobiliers et des matériels nécessaires pour l'implantation de nouveaux praticiens, une ostéopathe, un médecin échographe, une dermatologue, et d'autres est déjà signé par leur promesse à bail et se sont récemment installés. Il est donc proposé au Conseil communautaire de délibérer pour approuver donc le budget supplémentaire présenté.
Merci.
Qui est à l'ordre du jour.
Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Le rapport 46, c'est le réajustement de la provision pour dépréciation des comptes de tiers au budget principal. Monsieur Perron.
Donc les questions denses concernant les comptes étant délibérées, donc il nous reste encore plusieurs questions relatives aux finances de la communauté des communes, donc la question 46. Le service de restauration collective requiert une provision ou dépréciation des comptes de tiers, des impayés. Ce risque ayant fortement diminué grâce aux efforts des services, mais aussi à la modification des dates de prélèvement, il convient donc de procéder à une reprise de 25 000 euros sur la provision constituée. Le Conseil communautaire est appelé donc à délibérer pour procéder à la reprise sur provision pour 25 000 euros et autoriser M. le Président à signer tous les documents y afférents.
Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Question 47, il s'agit d'exonérer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Monsieur Perron.
Alors, donc, les entreprises du territoire rhône-lésien, donc, qui procèdent elles-mêmes à l'enlèvement de leurs déchets, peuvent être exonérées de taxes d'enlèvement d'ordures ménagères. Donc, en conséquence, donc, le Conseil communautaire est appelé à délibérer pour exonérer pour l'année 2021 les entreprises listées dans la délibération qui vous a été communiquée.
Il faut y avoir de l'ordre. Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 48, il s'agit du dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises. Monsieur Perron.
Alors, l'article 3 du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 prévoit d'instaurer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises en faveur des entreprises de la petite taille, de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation donc, de l'épidémie Covid-19. Le Conseil communautaire est donc appelé à délibérer pour instaurer le dérèvement mentionné ci-avant et charger le Président de notifier cette décision aux services compétents.
Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Exonération de la taxe de séjour, rapport 49, Monsieur Perron.
Donc l'article 17 du troisième projet de loi de finances rectificatives pour 2020 prévoit que les EPCI peuvent exonérer leurs contribuables de taxes de séjour pour les nuitées effectuées entre le 6 juillet et le 31 décembre 2020. En conséquence, le conseil communautaire est appelé à délibérer pour instaurer l'exonération de la taxe de séjour selon les dispositions mentionnées ci-avant et chargé, bien entendu, Monsieur le Président, de notifier cette décision aux services compétents.
Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Rapport 50. Il s'agit de correction et de rattrapage d'amortissement sur l'exercice, sur des exercices antérieurs. Monsieur Perron.
Donc, la question des 50 est la dernière des finances. Donc, enfin, dernière question très technique concernant la correction et rattrapage d'amortissement sur l'exercice antérieur. Cette délibération avait déjà été présentée au Conseil communautaire le 17 décembre 2019, mais en raison du changement du comptable public, elle n'a pas pu être suivie d'effet durant l'exercice 2019. Comme nous avons changé d'exercice comptable, il est nécessaire de délibérer à nouveau sur ces régularisations à l'intérieur des comptes d'amortissement. Comme mentionné dans la délibération, ces corrections sont neutres budgétairement pour la collectivité et n'ont aucun impact sur le résultat de fonctionnement et d'investissement. Donc le Conseil communautaire est appelé à délibérer pour annuler la délibération 2019-168 du 17 décembre 2019 et d'autoriser le comptable public à effectuer un prélèvement sur le compte 1068 du budget M14 de la collectivité d'un montant de 656 171,18 € par opération d'ordre non budgétaire pour régulariser les comptes détaillés dans la délibération.
Voilà. Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 51, il s'agit d'une cotisation pour la 2020, Vaucluse Provence Attractivité, Monsieur Perron. Si, ben, si vous voulez, je la présente bien volontiers. Cotisation, il s'agit de l'Agence départementale de développement économique et de développement touristique, comme nous le faisons depuis les précédentes délibérations, d'acter le versement d'une subvention de 90 centimes par habitant par an pour la durée de la convention, soit un montant de 21 893 € au prorata des 24 325 habitants selon la population légale de l'INSEE en 2017, et de m'autoriser à signer la convention, à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 52, il s'agit d'une convention relative à la mise en place des colos apprenantes dans le cadre des vacances apprenantes. Considérant que des séjours sont organisés chaque année par les espaces jeunes et que deux sont prévus durant le mois de juillet 2020, considérant que le gouvernement a souhaité initier la mise en place des colonies apprenantes pour faire suite à la crise sanitaire, considérant que ces colos apprenantes ont été définies par l'instruction ministérielle du 8 juin 2020, considérant que le projet de convention valable pour la période de juillet et août prévoit le financement de 20 séjours pour un public prioritaire par l'État au bénéfice de la communauté de communes, et proposer d'approuver la convention relative à la mise en place des colos apprenantes dans le cadre des vacances apprenantes et de m'autoriser à signer la dite convention ainsi que toute pièce relative à la présente délibération. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Question rapport 53, il s'agit de la subvention 2020 pour le club d'entreprise du Nord Vaucluse, considérant que la communauté de communes a initié en 2011 la mise en réseau des dirigeants locaux, que le CNOV compte parmi ses adhérents 80 chefs d'entreprise et qu'il sollicite une subvention de fonctionnement, considérant que la communauté de communes, sur présentation de projets, pourrait être amenée à délibérer à nouveau afin de participer au financement d'actions pour l'année 2020. Il est proposé au conseil communautaire d'attribuer une subvention de fonctionnement de 10 000 euros à l'association CNOV pour l'année 2020 et de m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Rapport 54. Il s'agit d'une convention de mise à disposition de locaux scolaires au sein de l'école des Tamaristes avec la PEI d'Orange pour la création d'une classe UMA. Vous avez aujourd'hui les dispositions qui constituent le régime de droit commun obligatoire applicable au transfert des équipements dans le cadre des transferts de compétences qui régit à la fois la ville et la communauté de communes. Considérant que la communauté de communes bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire et possède tout pouvoir de gestion et peut notamment autoriser l'occupation des biens remis. Considérant que la commune de Bolène s'est portée candidate à l'appel à projet présenté par l'Agence régionale de santé en date du 10 janvier 2020 pour accueillir une unité d'enseignement maternel autisme portée par l'association APU d'Orange, destinée à accueillir des enfants présentant des troubles du spectre autistique issus de la commune et des villes alentours. Considérant le projet de convention que vous avez reçu, il est proposé d'approuver la convention, d'engager les travaux nécessaires à l'installation de cette classe et de m'autoriser à signer cette convention et tout document se rapportant à cette délibération. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 55. Il s'agit l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, il s'agit de la déclaration annuelle. La loi de février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, vu l'article du Code du travail et le Code général des collectivités, considérant que depuis 1987, tout employeur public, dès lors qu'il emploie 20 personnes, est soumis au respect de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Cette obligation d'emploi à l'égard des travailleurs handicapés fixe un taux minimal d'emploi de ces personnes égal à 6% de l'effectif total concerné. Il résulte de la déclaration annuelle obligatoire établie par la communauté de communes Rhône-Lès-Provence au titre de l'année 2019, que la collectivité respecte cette obligation d'emploi avec un pourcentage de 7,01%. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'acter que la collectivité remplit les obligations légales d'emploi de travailleurs handicapés.
Je ne crois pas que ce soit soumis au vote.
Il n'y a pas de vote. Est-ce qu'il y a des questions ? Question numéro 56. Il s'agit de l'attribution de la prime exceptionnelle Covid-19. Vu les différentes lois portant dispositions statutaires, vu la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie, notamment son article 4 du 23 mars 2020, vu la loi de finances rectificatives pour 2020 du 25 avril 2020, notamment son article 11, vu les décrets, conformément au décret qui est présenté, une prime exceptionnelle d'un montant de 1 000 euros maximum peut être mise en place dans la fonction publique territoriale dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Considérant que le versement de cette prime n'est pas reconductible et doit être effectué en 2020, je vous propose d'instaurer la prime exceptionnelle Covid-19 au profit des agents qui ont été particulièrement mobilisés pendant la période du 24 mars au 10 mai 2020 inclus, selon les critères d'attribution précis. Cette prime sera versée aux agents ayant exercé leurs fonctions en présentiel. Ceux qui ont resté en télétravail ne seront pas concernés. Le montant de cette prime plafonnée à 1 000 euros sera proratisé en fonction du temps de travail de l'agent et des jours travaillés en présentiel au cours de la période du 24 mars au 10 mai 2020. La prime sera donc versée en une seule fois au mois de septembre 2020. L'autorité territoriale fixera par arrêté les bénéficiaires parmi ceux mentionnés à l'article 2 du décret précité et selon les modalités d'attribution définies par l'Assemblée. Je vous propose donc d'adopter la proposition que je viens de faire, d'instaurer cette prime exceptionnelle Covid-19 en remerciement de l'engagement et du dévouement de l'ensemble des agents de nos collectivités, mais en l'occurrence ici de notre collectivité Rhône-Lès-Provence, et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. La question numéro 57, il s'agit d'une demande de remise gracieuse à M. Xavier Topiac, ancien directeur des finances de la collectivité. Au vu de la loi d'avril 2000, et notamment l'article 94, vu la loi du 28 décembre 2011, vu le Code général des collectivités, considérant l'émission du titre de recette numéro 453 d'un montant de 2 884,57 euros émis le 27 décembre 2018 relatif au versement d'heures supplémentaires versées à tort à M. Topiac sur la période du 1er décembre au 31 décembre 2017, considérant la demande de recours gracieux effectuée par M. Topiac qui précise que la durée de versement de ces heures supplémentaires pourrait être assimilée à un acte individuel créateur de droit et que le délai pour retirer cette décision était forclos lors de l'émission du titre de recette 453 en date du 27 décembre 2018, considérant que seul l'organe délibérant a compétence pour annuler ou réduire un titre, il est proposé au Conseil communautaire d'émettre un avis favorable sur la demande de recours gracieux de M. Topiac et l'annulation du titre de recette 453 du 27 décembre 2018 et de m'autoriser à tout document se rapportant à ce dossier. Y a-t-il des questions ? Allez-y.
Oui, eh bien, je suis fort étonnée pour quelqu'un qui gère bien et moi qui gère mal. Vous voyez, ce genre de choses, on ne l'a jamais eu. Je suis désolée, madame, de vous gêner dans mes propos. Mais payer 2 800 euros d'heures supplémentaires à quelqu'un par erreur qui est au service finance, qui dirige le service finance, qui est catégorie A, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit, même pas à une heure supplémentaire, il y a quelque chose qui se passe quand même dans votre gestion. Alors, bien sûr, la Chambre régionale des comptes va vous donner un satisfecit, mais c'est quand même un signe d'une grande distraction de la part de tous vos services, et en particulier de vous qui êtes si vigilants, parce que 2 800 euros, ça fait quand même un bon mois. Hein. Je ne suis pas sûre que dans les spectateurs ou dans les personnes présentes, ça soit leur montant de revenus. Alors, et je reviens sur le fait que, tout à l'heure, vous avez dit que j'avais évincé tout ce qui me gênait de propos de ma secrétaire.
Mais je suis
parce qu'elle-même...
Vous avez un vrai problème, mais vous n'êtes pas amélioré, même après les élections. Vous ne portez, Madame Ricard a fait une intervention que je pense qu'on peut saluer, vous intervenez sur une délibération, que vous portiez des griefs sur la gestion par rapport au cas de M. Topiac, j'en conçois, que vous revenez sur, vous inquiétez pas, on reviendra sur des dispositions en assemblée communale, on aura l'occasion de tout se dire.